Chapitre 7e, Crimée. 8 jours plus tard, Constantin Michel revenait de Kiev. Chaque soir, entre 5 et 7 heures, la journée finie, il avait attendu la venue de la nuit sur la terrasse du jardin des marchands. La vue dont on y jouit est une des plus belles qui soit au monde. À gauche, au-dessous de la terrasse, ce sont les quartiers populeux du port. À droite, dans la verdure, les murs blancs et les coupoles dorées de la Laure la plus sainte de Russie. Puis le Dniepr, lent, aux courbes allongées, les bateaux à vapeur qui le sillonnent, les caravanes de barges et de chalands, les fumées qui montent, les coups de sifflet qui déchirent le silence, et plus loin, la plaine russe allant sans une ride jusqu'à l'horizon et la grande tache sombre de la forêt vers l'Orient. C'est un paysage immense, animé au premier plan et tranquille à l'infini, un paysage sans pittoresque, dont on ne se fatigue pas, et qui change lentement sous les jeux variés de la lumière. L'air était doux après les journées déjà chaudes, le ciel profond, et les fleurs parfumaient les crépuscules paisibles. Constantin Michel regardait les robes claires des femmes, les uniformes des officiers, la foule mouvante sur les terrasses, puis tournait les yeux vers la plaine qui s'endormait au-dessous de lui. Dans ce décor grandiose, l'aventure de Moscou se ramenait à ses justes proportions. Il s'étonnait de s'y être passionné. Il ne comprenait plus pourquoi le passé d'Ariane avait pu l'émouvoir à ce point. « Grâce à Dieu, se disait-il, elle ne m'a pas trompé. Sa franchise inouïe m'a peut-être sauvé. Eût-elle eu la rouerie de ses sœurs occidentales? M'eût-elle joué la charmante comédie sentimentale à laquelle nous nous prêtons si complaisamment? Eût-elle essayé de me faire croire qu'elle m'aimait et que j'étais, malgré les expériences indéniables de son passé, le premier homme qui entrait dans son cœur? Qui sait si je ne me fusse pas laissé prendre? Mais avec elle, il n'est pas possible de nourrir ces illusions qui nous mènent si loin. Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus matter of fact. Elle se montre comme une planche anatomique. Ce que les femmes cachent, elles l'étalent. Je parie qu'à mon retour de Crimée, je saurai le nombre exact de ses amants et leur état civil. Je suis un numéro dans une liste. Ne l'oublions pas. Sachant gré à cette charmante fille d'avoir bien voulu me faire un don si franc d'elle-même, remercions-la de m'avoir évité de longues hésitations et d'avoir renoncé aux comédies coutumières. Dans cette humeur, il lui écrivit une lettre gaie, avouant d'un ton vif qu'il ne pouvait se passer des longues conversations dont elle avait su charmer le séjour de Moscou et se promettant 1000 félicités des semaines à venir en Crimée. Il eut un modèle qui s'était croisé avec le sien. Elle ne parlait pas du voyage projeté et décrivait d'une façon spirituelle sa vie entre un oncle amoureux et une tante que la jalousie avait bien de la peine à faire sortir de l'indolence qui lui était ordinaire. Sa lettre avait l'allure leste et dégagée qu'elle apportait à toute chose. Il lui télégraphia son arrivée et confirma leur départ pour le lendemain. Sur le quai de la gare, Ariane Nikolaevna l'attendait et dans la voiture qui les emmenait à l'hôtel, se serra affectueusement contre lui. Elle avait passé son dernier examen le jour même de la façon la plus brillante. Elle n'éleva aucune difficulté au sujet du voyage de Crimée et raconta l'ingénieuse façon dont, avec la complicité d'une amie, elle trompait son père, son oncle, sa tante Barbara, les nombreux amis qui l'attendaient en province. Elle affirma seulement qu'elle devait être le 19 juin chez elle pour des raisons de la plus haute gravité et que sur ce point il n'y aurait pas de discussion. Elle avait donc une semaine à donner à son amie. Le lendemain, l'express de Sébastopol les emportait. Ils étaient seuls, étendus sur une petite plage de sable roux et chaud au ras de la mer. À droite, à gauche et derrière eux, des rochers tout proches, déchiquetés, rouges. À leurs pieds, les vagues molles venaient mourir avec le bruit d'une étoffe qu'on déchire. Dans le ciel pur, quelques petits nuages chargés de lumière restaient immobiles, comme accrochés dans l'azur. Ainsi que l'avait promis Constantin Michel, ils vivaient comme des dieux, et nus au bord des flots sous le soleil qui baignait leur corps allongé, respiraient sans parler l'air marin. Il y avait plus de 8 jours qu'ils étaient près de Yalta, dans une intimité de chaque minute. Ils habitaient la maison qu'un peintre ami de Constantin lui avait cédée, une petite maison aux murs blancs, au toit rouge, perdu dans les rochers, non loin de la route qui va de Yalta à Aloucha. La maison ne comprenait que deux pièces. L'une, la plus grande, donnait au midi sur la mer par trois fenêtres, avait des murs crépis à la chaux, sur lesquels étaient tendues quelques étoffes orientales, et des divans revêtus de tapis persans étaient disposés le long des parois. Elle servait de salon et de salle à manger. L'autre, la chambre à coucher, plus petite, mais spacieuse encore, regardait au couchant un étrange paysage de cactus, de plantes grasses, de fleurs, de rochers et de pins. Sur le derrière de la maison, la cuisine et la chambre de la bonne qui préparaient leur repas. C'était une fille de sang tatar, aux cheveux noirs, aux beaux pieds nus, qui glissait doucement dans la maison sans qu'on l'entendît. Ariane avait fait le tour du logis que Constantin avait choisi pour leur vie à deux. À la façon d'un chat qui inspecte une demeure nouvelle, puis avait disparu dans la cuisine, où elle eut un long entretien avec la tatare. Constantin l'avait chargée de diriger la maison, non sans craindre que le ménage ne fût tenu de façon fantaisiste. Il se trompait. Ariane se révéla maîtresse de maison accomplie. Non seulement les repas étaient servis à heure fixe, mais la chair était excellente et variée. Ariane ne dédaignait pas de donner des recettes à la tatare, des recettes venues de la cuisinière renommée de Varvara Petrovna, et en surveillait l'exécution. Il y eut un chaud-froid de poisson au caviar devant lequel Constantin s'extasia, et un coulibiac dont on parla longtemps. La jeune fille prenait au sérieux ses devoirs nouveaux, et à table, se réjouissait à voir Constantin faire honneur au menu. Leur vie coulait monotone mais exquise. Ils se réveillaient tard dans la chambre claire. Ariane frappait dans ses mains. Au bruit, la tatare aux pieds nus, souriante et silencieuse, arrivait, portant un plateau chargé de chocolat, de thé, de crème, de pain frais, de beurre et de confiture. Ils déjeunaient, côte à côte, de grand appétit et tardaient à se lever. Vers 11 heures, pourtant, ils quittaient le grand lit tiède et gagnaient la petite plage voisine. Là, ils s'ébattaient en pleine lumière, jouaient comme des enfants dans les rochers, entraînant l'eau presque tiède, en ressortaient pour y retourner encore. Puis venaient s'étendre nus sur le sable chaud. Ariane alors détachait ses longs cheveux. Ils restaient immobiles sous le soleil brûlant, les paupières closes. Il semblait que les rayons pénétrassent jusqu'au centre de leur être. C'était, sous la peau, comme le crépitement de millions de petites étincelles électriques. La vie universelle paraissait couler en eux. Ils étaient les frères des rochers, du sable et des fleurs qui les entouraient. Le vent salin caressait leur corps et passait entre leurs doigts de pied libres. C'était un long engourdissement exquis. Ils ne parlaient pas, à peine se sentaient-ils vivre. Vers 1 heure, alors que le soleil tombait d'aplomb sur eux, ils rentraient comme ivres dans la salle fraîche et déjeunaient de grand appétit. Puis c'était une longue sieste pendant les heures chaudes. Au premier jour, Constantin s'était étendu sur un divan. Ariane reposait sur le lit, et le second jour, à sa grande surprise, l'appela. Lisant, fumant et dormant, ils reposaient ainsi près l'un de l'autre, à peine vêtus, et à 5 heures prenaient le thé. Il fallait s'habiller, enfin. Ariane soupirait, mais se coiffait, et passait une robe légère comme une toile d'araignée. Au crépuscule, ils sortaient de leur domaine et marchaient sur la route de Yalta. Souvent, ils allaient jusqu'à la ville, voisine de quelques verstes, traversant les riches vergers et les jardins de fleurs qui bordent le rivage. Là, une fois la nuit venue, ils soupaient sur la terrasse d'un hôtel dominant la mer. Au-dessous d'eux, des bateaux se balançaient dans le port qu'éclairaient de grands globes électriques. Des musiques lointaines passaient dans l'air embaumé. Les gens regardaient avec envie ce couple dont le bonheur éclatait comme un défi. Ils regagnaient enfin leur villa. Le long de la route, les lucioles piquaient les buissons odorants de leurs pointes de feu qui voltigeaient de branche en branche, s'éteignant pour se rallumer plus loin, faisant à leur promenade nocturne un décor passionné où l'amour à chaque pas brûlait en flammes brèves et vives. Chez eux, ils trouvaient le samovar sur la table et se déshabillant et s'embrassant, restaient à causer tard dans la nuit. La réserve extérieure qu'Ariane avait toujours gardée avait disparu dans l'intimité de la vie à deux. Maintenant, elle tutoyait son amant qui lui avait fait remarquer que pour une fille de son naturel, le vous manquait de simplicité. Elle était dans les bras de Constantin une maîtresse tendre et passionnée, avec quelque chose de raffiné et d'éperdu dans les caresses qu'elle lui prodiguait. Mais il sentait qu'intérieurement elle n'avait changé en rien. Elle restait ironique, spirituelle, d'une liberté d'esprit qui allait jusqu'au cynisme le plus étalé. La seule idée qu'il pouvait être question d'amour entre eux l'aurait fait éclater d'un rire insolent et juvénile. L'amour, c'est les rêves blancs d'une jeune fille innocente. Les sages en cherchent dans le physique les seules réalités, et les plaisirs extrêmes de la sensualité n'ont nul besoin de se compliquer d'une maladie sentimentale propre à rendre stupides les gens les plus intelligents. Elle remercia donc son amant d'avoir su lui organiser de façon merveilleuse une existence qui satisfaisait ses sens et lui laissait le cœur et le cerveau libres. Elle avait eu la délicatesse, pendant leur première semaine au bord de la mer, de ne pas rappeler ses expériences antérieures. Tout ce qu'elle disait sur l'amour, elle avait le soin de le généraliser. Ce trésor de sagesse matérialiste dans la bouche d'Ariane faisait un étrange contraste avec la jeunesse éclatante de ses 18 ans, et Constantin Michel ne cessait de s'en étonner. Ils étaient arrivés ainsi, un jour entraînant l'autre dans une suite continue et passionnée, au 10 juin, date à laquelle Ariane devait être chez elle. Une fois, pourtant, Ariane n'avait fait allusion à la nécessité d'être exacte d'un rendez-vous sur lequel elle ne s'expliquait pas autrement. En vain, Constantin, dont la curiosité était éveillée, et qui croyait tout savoir de sa maîtresse, avait essayé de la pousser sur ce point. Elle avait répondu en termes vagues et volontairement équivoques. Il s'agissait d'un engagement d'honneur auquel elle ne pouvait faillir. À certains mots, il put comprendre que des questions d'argent y étaient mêlées. Lorsqu'elle en parlait, elle devenait soucieuse, irritable et, finalement, pria Constantin d'éviter ce sujet qui lui était pénible. Il se tut, mais il sentit qu'il y avait quelque chose d'obscur dont il aurait donné beaucoup pour pénétrer le mystère angoissant. Une semaine encore passa. Ariane regardait plus souvent le calendrier et son humeur se modifiait. Un soir, comme ils soupaient sur la terrasse d'un hôtel de Yalta, elle parla de leur séparation prochaine et cette fois-ci définitive. « Tu recommenceras à courir le monde et les femmes, et moi, l'automne prochain, je reprendrai à Moscou les cours de l'université. Je pense aller en Europe, après le premier semestre, à Paris et à Londres. »« Alors nous nous rencontrerons là-bas, » dit Constantin joyeusement. « Tu verras quelle belle vie je t'arrangerai. »« Je ne te reverrai jamais, » fit-elle sans élever la voix. « À quoi bon? Les plats réchauffés ne valent rien. Nous avons vécu fort bien ensemble. Restons-en là. » Et puis, continua-t-elle avec un charmant sourire à l'adresse de Constantin, « j'ai eu la chance de ne pas m'attacher à toi. Je courais de grands risques, car tu es dangereux. J'ai su les éviter. Vois-tu que je me mette à t'aimer? Veux-tu que je souffre de ton absence? » « Oui, » dit Constantin simplement, « je le veux. »« Eh bien, je ne le veux pas. J'ai ma jeunesse devant moi. Ne crois pas que je te la sacrifie. Tu m'auras vite oublié. Une petite fille, comme tu dis, cela compte-t-il dans une liste longue? Grâce à Dieu, tout s'est passé entre nous comme il était convenu. Nous n'allons pas entamer un autre morceau pour lequel nous ne sommes faits ni l'un ni l'autre. Avoue que tu ne me vois pas en amant t'éplorer. Est-ce un rôle pour moi? Nous nous dirons adieu dans quelques jours. » Constantin sentait une irritation grandir en lui. Il regardait Ariane. Elle était gaie et s'exprimait sur un ton de détachement qui le blessait au vif. Ils continuèrent longtemps à se déchirer l'un l'autre, souriant, impassibles, cherchant chacun la place faible de l'adversaire pour y enfoncer un trait acéré. Les gens qui le regardaient avec envie imaginez qu'ils échangeaient les 1000 tendresses qui sont coutumières entre amants. Constantin conclut en ces termes. « Nous sommes tout près l'un de l'autre, mais entre nous, il y a un abîme que rien ne peut combler. J'y renonce. Allons-nous-en. » Ariane avait un sourire douloureux au coin des lèvres. Ils se levèrent et regagnèrent à pied leur logis. La lune jouait sur les flots et baignait les vergers endormis de Yalta. Ariane se taisait, et Constantin sentait je ne sais quelle amertume au fond de son cœur. Ils se couchaient en silence, mais une fois dans le lit, comme ils allaient s'endormir, Ariane se serra contre son amant, lui prit la tête entre ses mains et la couvrit de baisers. « Pardonne-moi, » dit-elle tout bas en oreille, « j'étais méchante, je ne le serai plus. et Constantin retrouva la voix humble, enfantine, qu'il avait entendue une fois seulement, quand rien ne s'était donné à lui.